Espace 2.
Quand l'homme est profond, plus profond que tous les autres, un désir fondamental, inconscient, et l'essence de désir est ouverture à l'autre. Affirmation interpellante pour nous qui avons plutôt l'habitude de vivre dans des bulles plus ou moins étanches. Dernier volet de notre série d'entretiens avec le psychanalyste jésuite Denis Bass, une série que nous avons intitulée « Naître pour la mort, naître à la vie ». Bonsoir et bienvenue.
À vue d'esprit.
La vie est fondamentalement quelque chose qui se donne, qui se reçoit, qui se partage, mais qui ne se possède pas. Or, pour certains d'entre nous, ou à certains moments de notre existence, la vie nous apparaît comme un cadeau empoisonné. Comme si en fait ce n'était pas tant la vie qui avait né, mais la mort. Derrière cela se trouve un refus primordial, refus inconscient le plus souvent, d'entrer dans l'existence. C'est autour de cette problématique que nous avons cheminé cette semaine avec Denis Bass, cheminé, tâtonné dans cette pensée complexe, parce qu'elle touche aux racines de notre être. Denis Bass est l'auteur de plusieurs ouvrages qui ont largement influencé la pensée théologique, une pensée existentielle, car précisément Denis Bass des confidences de son cabinet de psychanalyste pour élaborer sa pensée et pour redire avec des nouveaux des affirmations théologiques aussi fondamentales que le péché originel, parole, l'autre, la chair. Dernière étape aujourd'hui pour découvrir cette pensée, pas facile mais ô combien enrichissante. Denis Bass, vous écrivez que l'essence de l'homme, ce qu'il y a de plus fondamental en chacun de nous, en chaque humain, elle vise à l'ouverture au réel, à l'altérité.
Oui, parce que sinon nous ne serions ouverts, nous serions ordonnés qu'à ce que nous connaissons comme objet. Or, nous savons bien que réduire l'autre à un objet, c'est justement le tuer. C'est justement en jouir au bout, c'est-à-dire le consommer.
Parce que Denis Bass, les jours précédents, justement, on définissait cet homme qui refuse la vie, qui refuse l'altérité, comme quelqu'un qui est dans une bulle, qui finalement ne vit qu'au milieu d'objets, même si c'est des personnes qu'on utilise, qu'on prend, qu'on jette, comme des mouchoirs en papier. Voilà.
Je crois que cette relation-là, de transformer en objet pour soi, qui vous fait vivre, c'est à la fois le fondement de toute idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est ce qui donne à l'objet le pouvoir qu'il n'a pas. Et donc c'est imaginer qu'il peut, et c'est-à-dire qu'il vous aime. Or, un enfant, par exemple, un enfant qui devient objet, il devient l'objet de sa mère, l'objet d'amour, les enfants qui ont été les objets de consolation d'une mère triste, c'est épouvantable. Ils vont se débrouiller, incarner cet objet de tristesse. Et une femme que j'ai suivie pendant des années et qui avait la possibilité, qui avait trouvé quand elle était petite, la possibilité de déclencher des crises terribles. Elle était devenue l'incarnation, la crise de ses parents. Parce que ses parents, sa mère s'était trouvée dans une espèce de désespoir au moment même où elle a été conçue, où elle est née. Elle a tété ça, elle se nourrit de ça. Et donc elle est devenue, vous voyez bien, cette mère objective. C'est la tristesse qui s'est incarnée en elle, et la tristesse de la crise conjugale, d'une telle manière, qui faisait qu'elle était arrivée à déclencher elle-même la crise. Elle était la crise, quoi. Et qu'on a pris pour des crises d'épilepsie. Et qu'il était peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait bien des ondes qui étaient perturbées, mais et je vous assure que quand elle s'est installée sur le divan, elle avait mal partout où ont mal les gens quand on va avoir une crise d'épilepsie.
Thank you.
place. Est-ce que cette manière d'être en relation avec l'autre, de le réduire à un objet, à l'image que je n'ai, etc., est-ce que c'est pas une perversion de ce désir fondamental qui est le désir de l'autre?
Oui, on peut dire même, si l'on va jusqu'au bout pour être juste, c'est la perversion fondamentale du désir de Dieu.
D'où ce sentiment d'insatisfaction de celui qui vit comme qui est dans sa bulle, le besoin de répéter sans cesse.
Puisque ce qui satisfait l'action, c'est justement d'avoir un objet. Parce que quand vous avez un objet, il n'est plus étranger à vous-même, il est en vous-même. Il est réduit à ce que vous savez. C'est pour ça que le savoir a une telle force pervertissante. Un jour, je me souviens, mon père m'a dit, j'avais fait une bêtise, j'étais petit, et il m'a dit, mais je te connais comme si je t'avais fait. Et ben, je lui ai dit, alors tu me connais bien mal. Comme si je t'avais fait. Comme s'il était mon origine. C'était un bon type, hein, mon père, en plus. mais c'est pour vous dire comment ceci est inscrit, non pas dans vous, mais est inscrit en nous comme ce qui s'oppose à la vie, comme ce qui ne peut pas se révéler comme étant la vie. Et alors, nous avons la prétention de penser que la vérité de la vie, c'est quand on s'éclate. C'est l'intensité du sentiment qu'on en a. C'est-à-dire, quand nous sommes satisfaits. Alors, c'est vrai que nous sommes un montage pulsionnel qui réclame périodiquement des satisfactions, manger, dormir, faire l'amour, voir. Et chacune de ces pulsions peut être prise pour le désir lui-même. Mais qu'est-ce que c'est qu'un désir qui se satisfait? Il ne meurt pas, il commence. Et vous voyez bien qu'effectivement, le désir est infini, comme disent les philosophes. C'est-à-dire qu'il vise, il est ordonné à une altérité radicale.
Et alors quand il se vit à ce niveau, le désir, ça devient quoi ?
Il est de Dieu. C'est-à-dire vous parlez et vous aimez comme Dieu et vous vivez comme Dieu.
Et je suis dans le partage, je suis dans l'ouverture, dans la rencontre.
Mais ça n'est même plus un souci pour vous, Deo gratias. Justement, c'est ça la liberté.
J'aimerais peut-être opposer deux termes, vous me direz. D'un côté, la maîtrise qu'on a touchée avec le savoir scientifique, la connaissance, etc. Et de l'autre, la chair, l'incarnation, le corps.
Ah ben, vous voyez bien que si la maîtrise est imaginaire, c'est la bulle, quoi. C'est vous qui organisez votre vie. C'est vrai, en plus de ça, que le désir de l'homme, et Lacan le définira, comme inconscient. C'est-à-dire qu'il fonde essentiellement, mais nous n'en avons jamais nécessairement la conscience. On le connaît aux effets qui sont les siens, dans la mesure où il est raciné dans la vie.
Et c'est quoi ces effets? C'est goût de vie?
C'est la vie. C'est même la vie sans en avoir le goût.
Est-ce que je pourrais dire que qu'on est dans la maîtrise, vous dites, on est dans l'imaginaire, on est dans le monde qu'on se construit.
Oui, oui, oui.
Alors, si on est dans le désir vrai, on est corps et le corps est dans le réel.
Dans la vie, oui, tout à fait, tout à fait. On peut dire ça. C'est pas le corps, c'est la chair.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de chair?
Justement, c'est pas le corps qui est dans le réel, c'est la chair invisible qui est la nôtre. Alors, qu'est-ce qui caractérise le genre humain? C'est qu'il a la même chair, parce qu'il est animé du même esprit. Je ne suis pas toute la chair, vous n'êtes pas toute la chair, nous sommes de la même chair. L'unité de cette chair, elle n'existe que dans la rencontre. Comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que c'est dans la rencontre de l'homme et de la femme que se donne la chair, l'unité de la chair, c'est-à-dire l'enfant. L'enfant qui naît d'un homme et d'une femme indique l'origine de tous. C'est-à-dire qu'il révèle à ses parents ce que les parents savent très bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'origine de leur enfant. Mmh. Leur enfant témoigne de la vie originaire qui est en eux, qui a coulé en eux.
Cher comme ce lieu d'origine commune de tous les humains.
Comme la source, tout à fait. Mmh. Comme la source. Mais qui est impossible à penser. Mmh. Pas plus que n'est possible à penser ceux qui cherchent à se dire « je vous parle ». À mon avis, nous ne pouvons pas en parler de nous-mêmes et par nous-mêmes. Et à mon avis, c'est toute la formidable, incroyable institution du sacrement. Je ne peux qu'y croire. La vie qui est la mienne, qui est en moi, je ne peux qu'y croire.
On a eu cette semaine de paroles, on vient de parler de chair, on tourne autour de ce mystère de vie donné. Est-ce que quand le moi, qu'on s'est construit, notre belle façade, etc., est-ce que quand notre belle façade entre en contact avec ces réalités-là, d'une certaine manière, quand il y a une parole qui touche, que le moi n'est pas du coup appelé à s'effriter ?
Ça s'appelle, notre monde a trouvé un mot formidable pour ça, elle appelle ça la dépression. Et ce mot scientifique qu'il y a dans le système employé, dans l'ordre du monde, qui a tout à fait sa logique, vous voyez bien que c'est un mot qui empêche de s'interroger sur notre attitude profonde, subjective, par rapport à la vie et au vivant. Mais vous voyez bien que s'il n'y avait pas ça, si ça ne nous entraînait pas à la mort, jamais nous ne ferions l'expérience de la résurrection.
On touche vraiment bien là le mystère de la mort-résurrection.
Ah oui, tout à fait.
Sentir à la vie, finalement, c'est quelque chose qui n'est jamais fait une fois pour toutes. C'est toujours un combat à recommencer.
C'est toujours à recommencer pour nous, mais c'est ce qui est en nous depuis l'origine. C'est-à-dire, c'est ce que l'Église appelle l'esprit. Alors, on peut dire que, vous voyez, c'est plutôt du côté de l'essentialité du désir. Mais c'est justement, nous, on n'est que dans la jouissance du désespoir. Mais vous voyez bien que découvrir en nous quelque chose qui vit, alors que nous devrions être dans la crise, le deuil, etc., ce n'est peut-être dans la jouissance pulsionnelle. Mais c'est à la condition de découvrir en vous un désir qui n'est pas de vous.
J'aimerais, pour terminer notre entretien, vous faire commenter une phrase qui est dans vos livres « La dérision ou la joie ». Vous dites « Long est le chemin qui mène au consentement de l'amour. Celui qui le parcourt aura à découvrir que vivre en vérité, ce n'est pas mourir, c'est vivre avec. Et que mourir en vérité, ce n'est pas ne pas souffrir, c'est mourir pour.
» J'ai tout dit. Mais oui, oui, tout à fait. Celui qui aime jamais ne dira à quel point il se sacrifie pour ses enfants. Jamais. Celui qui aime vraiment donne la vie.
Riva est psychanalyste et jésuite. Il est l'auteur de nombreux ouvrages. Nous en citons quelques-uns. D'abord, celui qui nous a guidés dans ses entretiens, Lésion ou la joie, paru au Seuil en 1999. Un autre livre, livre d'entretien, plus facile d'accès cette fois. Il s'intitule La vie et les vivants, également publié au Seuil en 2001. Et puis, son dernier livre, nettement plus psychanalytique, celui-ci, puisqu'il retrace avec des dessins, des retranscriptions d'entretiens et des éclairages proprement psychanalytiques, la cure d'un petit garçon. Ça s'appelle La Grande Menace et publié au Seuil en 2004. Vous retrouverez toutes ces informations sur notre site fr.ch/esprit, esprit écrit au singulier. Vous pouvez également nous faire part de vos remarques ou commander un enregistrement de cette série en appelant notre répondeur le 021 318 60 70. 021 318 60 70. Merci à Alain Perrotet pour la réalisation, à Denise Fischer, notre assistante de production. La semaine prochaine, nous vous proposons en nouvelle diffusion les entretiens que Bernard Cesboué a accordé à Raphaël Paquier sur la question de l'autorité dans l'Église. Merci pour votre fidélité, excellent week-end à vous tous et à la semaine prochaine. SS2.